qui, dans beaucoup de pays, n'ont pas le droit de travailler. Pour tout ce qui pèse sur les familles, beaucoup d'agents en Chine n'ont pas pu rentrer chez eux depuis 3 ans. C'est le cas de beaucoup d'expatriés.
Une diplomatie en crise qui doit réagir en permanence à un monde en crise. Négociations, rédaction de notes de synthèse. On est loin de la publicité pour une marque de chocolat.
Radio G. 101.5 FM.
Retrouvez dans un instant Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. Bienvenue dans Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. 30 minutes d'histoire et de musique pour bien commencer la journée. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir l'océan Pacifique à travers 3 histoires extraites du recueil Contes du Pacifique d'Henri Gougaud, publié en 2000 par les éditions du Seuil. 3 histoires où le merveilleux tiendra au même titre que l'océan une place de choix. 3 histoires où l'homme devra se surpasser, voire trépasser, pour trouver les réponses à ses questions. Le tout sera agrémenté d'une sélection musicale qui nous élèvera jusqu'aux cieux. Allez, laissez-vous tenter. Vous êtes bien sur Radio G.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Un jour, 6 pêcheurs dans leur pirogue s'en vont à la pêche aux dauphins. Ils rament dans le lagon bleu. Ils chantent, le visage ensoleillé pour se donner du cœur. Et voilà que le premier à la proue de la barque, tout à coup, se dresse tout droit. Il vient de voir, là, sous les vagues, quelque chose d'étincelant qui l'émerveille. « Mes amis, je crois que je viens de découvrir un trésor de nacre. Ramez à l'envers, arrêtez la pirogue, il faut aller le chercher. » Les 6 hommes se penchent sur la mer. Ils regardent, les yeux écarquillés, les mains en auvent sur le front. On dirait en effet qu'un objet brille au fond de l'eau. Oh, c'est vrai, tu as raison, ce doit être un trésor de nacre. Celui qui l'a vu le premier se retourne vers ses compagnons. « Hé, attendez-moi, je vais le chercher !» Et aussitôt, il plonge. Il nage sous les vagues aussi profondes qu'il le peut, puis il remonte. Son visage émerge sur l'eau, ruisselant, dépité, et il n'a pas pu atteindre le trésor. Alors il dit à ses compagnons, « Revenons au rivage, allons chercher des pierres et des lianes. Nous attacherons ces pierres à nos pieds, ainsi nous pourrons descendre au fond de l'océan jusqu'à cet objet qui brille, jusqu'à cette nacre merveilleuse. » Ils font ainsi et ils reviennent. Le premier, alourdi de cailloux, se laisse glisser dans l'eau bleue. Les autres dans la pirogue le regardent descendre et disparaître. Puis ils attendent. Au bout d'un moment, un homme dit « Maintenant, il devrait être revenu. Oh, ce trésor doit être trop lourd pour lui seul. Je vais l'aider. » À son tour, il descend, une pierre à chaque pied. Quelques longues minutes passent. Dans l'eau transparente, ne monte plus la moindre bulle d'air. Oh, « Ils sont en train de se noyer, » disent les hommes. « Décidément, ce trésor doit être colossal. Il faut descendre les aider. » Et les voilà qui descendent, les uns après les autres, sous les vagues. La pirogue vide se balance sur la mer. Les hommes ne remontent pas. Aucun n'est jamais revenu du fond de l'eau pour raconter la fin de l'histoire. Mais je vais vous la dire, et elle est simple. Ces hommes avaient pris pour un trésor de nacre un rayon de soleil. Un simple rayon de soleil qui jouait dans l'eau bleue.
Tout compte fait.
À Tahiti, vécut autrefois un jeune guerrier nommé Oro. Il était beau et vif comme un torrent, fier comme un arbre. Et dans son regard noir brûlaient des soleils. Mais il n'était pas heureux, car un désir violent travaillait son esprit, devenir le plus fameux des hommes de sa tribu. Et ce rêve tournait sans cesse dans sa tête, comme un oiseau fou. Donc un jour, gorgé d'ennui, fatigué de vivre en paix parmi toutes ces filles nonchalantes, il quitta son village et s'enfuit dans la nuit. Voici donc Oro, sous la lune ronde, sa lance sur l'épaule, par un sentier à peine tracé dans les hautes herbes, il marche, écoutant les bruits de la nuit. Au loin, il aperçoit un feu devant une cabane. Il s'approche. Un très vieil homme est assis sur le seuil et son visage infiniment ridé luit à la lueur des flammes. Oro le salue et lui dit « Vieillard, je veux aller au royaume de corail où vivent les esprits et ramener la pierre magique qui sépare les âmes vivantes des âmes mortes. Dis-moi par quel chemin je dois aller. » Le vieillard tisonne un moment les braises, l'air rêveur, puis il lève la tête et répond « Oh, le voyage que tu veux entreprendre est difficile. Peut-être ne reviendras-tu jamais dans ton village. » Oro plante sa lance devant lui et lui dit fièrement avec un brin d'impatience « J'irai et je reviendrai. » Alors le vieillard lui répond d'une voix très douce. À l'aube prochaine, tu perceras deux trous dans une noix de coco. Tu la videras de son eau et dans ta pirogue, tu t'en iras sur la mer, vers le soleil couchant. Tu navigueras jusqu'à la nuit tombée. Alors tu regarderas par un trou de la noix de coco et tu verras le reflet d'une étoile sur les vagues. Suis cette étoile jusqu'à ce que tu rencontres une île. Le maître de cette île, mon frère Tona, t'indiquera le chemin du royaume de corail où vivent les esprits. » À l'aube, Oro s'éloigne sur la mer dans sa pirogue. Le lendemain, il parvient devant une île de pierre noire, déchirée, battue par les vagues. De grands oiseaux tournoient dans le ciel tourmenté. Il aborde sur une plage de gros galets. Au loin, un sentier grimpe dans la montagne. Un vent méchant siffle et tourbillonne parmi les rocs tranchants. Oro va dans ce paysage sinistre, courbé face à la bourrasque. Il monte entre deux murailles de rochers noirs. Le sentier, par une faille étroite, s'enfonce dans une caverne. Oro, le cœur battant, s'avance dans les ténèbres. Il n'entend maintenant que le bruit de ses pas sur le gravier mouillé. Il va, comme un aveugle, les mains en avant. Il marche longtemps. Enfin, il aperçoit au bout du long couloir la lueur d'un feu. Il se met à courir, s'écorchant aux parois abruptes, et il parvient ainsi au bord d'une rivière souterraine. C'est là, sur la rive, que brûle le feu. Et devant ce feu, un vieillard est assis. L'ombre immense de ce vieillard danse sur la voûte de la caverne. Il est tellement sec, ridé, cassé, qu'il semble né de la première nuit du monde. Il lève la main quand le jeune guerrier apparaît et lui dit « Je t'attendais. Je suis Tona. Je connais ton désir de conquérir la pierre de vie et de mort. Tu n'es pas encore au bout du voyage. Regarde cette rivière noire et pourtant transparente. Des coquillages vivent sur les rochers du fond. Il te faut les pêcher. Tu les ouvriras et dans certains d'entre eux, tu découvriras de petits cailloux blancs et lisses. Quand tu auras trouvé assez de ces petits cailloux pour te faire un collier et 4 bracelets, je te dirai le chemin qui conduit au royaume des esprits. » Ainsi parle Tona, le vieillard, puis il se lève et disparaît dans les ténèbres. Oro se met aussitôt à l'ouvrage. Il plonge au fond de la rivière et remonte au bord du feu. Le travail est difficile, harassant, interminable. Il ne trouve qu'une perle pour 100 coquillages ouverts. Combien de temps travaille-t-il ainsi, sans repos, dans ce lieu que le soleil ignore ? Il ne sait. Mais il arrive un jour au bout de sa longue peine. Alors, paré de son collier et de ses 4 bracelets, il s'avance jusqu'au bord de l'ombre et appelle Tona. Tona aussitôt apparaît et il lui dit « Tu es assez puissant maintenant pour atteindre le royaume des esprits. Prends cette plume rouge. Quand tu seras dehors, lâche-la dans le vent. Elle te conduira où tu veux aller, mais fais vite, car un autre guerrier de ton village est déjà en chemin. Peut-être trouvera-t-il avant toi la pierre de vie et de mort. Il se nomme Ati. » Oro, entendant prononcer ce nom, pousse un rugissement de colère. Ati est son rival, et depuis l'enfance, il le déteste. Il s'en va alors, courant follement le long du couloir ténébreux. Parvenu au bord de la mer, il lâche dans le vent la plume rouge qui s'envole aussitôt au-dessus des vagues. Il la suit, dans sa pirogue, 3 jours et 3 nuits. Au matin du 4e jour, une longue aiguille de pierre étincelante se dresse sur la mer à l'horizon. La plume rouge a disparu. Au pied du roc, Oro découvre une porte où s'engouffrent les vagues. Il plonge. Au fond ensoleillé des eaux, le voici devant le gardien du pays des âmes mortes. C'est un formidable serpent enroulé 7 fois autour de l'aiguille de pierre. Ce serpent lui dit d'une voix terrifiante. Si tu veux entrer au royaume des esprits, tu dois d'abord te prosterner 3 fois devant moi. Mais attention, si tu hésites un seul instant à m'adorer, tu ne reverras jamais ton village. Oro lui répond fièrement : Je suis prêt. Aussitôt, le serpent se métamorphose en une énorme araignée hideuse, épouvantable. Oro, sans hésiter, se prosterne sur le sable entre ses pattes. Il se redresse. Une anémone de mer apparaît, environnée de filaments multicolores. Oro sait bien que si l'un de ces filaments l'effleure, il sera terriblement brûlé. Il se prosterne pourtant. Alors l'anémone prend forme humaine et Oro voit devant lui Ati, son rival. Et là, son cœur bondit dans sa poitrine et il recule d'un pas. Trop tard, tu as perdu, ricane le serpent à l'instant revenu. Oro, pris de fureur, lève sa lance. Un tourbillon l'emporte. Et quand il revient au monde, son corps est couvert d'écailles. De fines et longues nageoires sont plantées dans son dos. Il est devenu un poisson volant, un poisson fou. Comme un homme, affamé de lumière, il cherche perpétuellement à s'arracher à la nuit des vagues et n'y parvient pas. Ainsi, cette histoire ne finit jamais.
Tout compte fait.
jour que la princesse céleste Tango Tango, visitant la terre, aperçut dans un village paisible un homme de grande beauté nommé Tawaki. Elle considéra un moment son corps vigoureux, sa chevelure luisante, son visage heureux et fier, et se sentit bientôt prise d'amour pour lui. Tawaki, lui, ne put la voir. Elle n'était qu'une brume, lumineuse et mouvante parmi les arbres. Mais elle le suivit jusqu'au soir, et dès qu'il se fut endormi sur sa couche, elle vint hanter délicieusement son sommeil. Elle fit ainsi toutes les nuits, un an durant. Avant l'aube, elle retournait au ciel. Et Tawaki, tous les matins, se réveillait seul, magnifiquement comblé, et pourtant mélancolique, comme un amant délaissé. Il devint peu à peu le plus rêveur des hommes et perdut le goût des joies simples. Or, au bout de cette étrange année, Tango Tango sentit un enfant bouger dans son ventre. Elle en fut tant heureuse qu'elle décida de le mettre au monde sur terre, dans la maison de l'homme qu'elle aimait. Une nuit, elle prit donc l'apparence d'une femme, belle et véritable, et quand l'aube vint, elle ne quitta pas la couche de Tawaki. Dès qu'il s'éveilla et la vit, elle posa la main sur sa bouche. Et à voix basse, elle lui révéla qui elle était. Tawaki reconnut tout de suite en elle la merveille de ses rêves. Il avait l'esprit vif et le goût du bonheur. Et le soir même, il l'épousa. Ils eurent une petite fille. Et Tawaki, devant cet être neuf, fragile et turbulent, se trouva vite fort empêtré. Un matin, tandis qu'il la tenait maladroitement dans ses bras, la petite lui fit pipi dessus. Il l'attendit alors à sa mère, la bouche tordue par une grimace de dégoût. « Ah, débarrasse-moi donc de cette petite chose aussi laide que puante !» lui dit-il. Tango Tango serra sa fille contre elle, baissa la tête et murmura les larmes aux yeux. « Ne l'aimes-tu pas ?» Tawaki ne lui répondit pas, il s'était déjà détourné et sortait au grand soleil où l'attendaient ses compagnons. Alors elle se sentit tout à coup délaissée et si perdue sur la terre des hommes qu'elle remonta dans son pays céleste avec son enfant. Tawaki, rentrant chez lui le soir venu et s'y retrouvant seul, tomba à genoux sur sa couche, accablé par le remords et le chagrin. Les jours passèrent et il resta inconsolable. Après un mois, l'absence de Tango Tango avait creusé de telles rides sur son front et tant désespéré son regard que son frère cadet lui dit « Tu ne tarderas pas à mourir si tu restes comme je te vois. Grimpons au ciel et ramenons ta femme parmi nous. » Comme ils ne savaient pas comment se rendre au royaume des dieux et des déesses, ils s'en furent d'abord demander conseil à leur grand-mère, Matakarepo, qui vivait dans une caverne sur une montagne aride et battue par les vents. La vieille était ridée comme une noix, et son corps décharné n'était vêtu de rien, sauf de toile d'araignée. Ils la trouvèrent, au seuil de son abri, occupée à trier des racines de taro du bout de ses doigts noueux. Elle reconnut tout de suite ses deux petits-fils et leur ouvrit les bras en pleurant de joie. Ah, ils s'embrassèrent longuement. Après quoi, Tawaki interrogea la vieille femme. « Nous voulons grimper au ciel, mais nous ne savons comment faire. »«
Oh, mais c'est très difficile, mes enfants !» Les vivants d'en haut cultivent dans leur royaume une vigne dont les sarments et les vrilles pendent sur le sommet de la falaise au-dessus de cette caverne. Et le seul moyen d'aller au ciel est de se hisser le long de ces vrilles.
Les deux hommes décidèrent donc d'escalader la montagne jusqu'à la cime et là virent les longs rameaux célestes se balancer au vent. Le frère de Tawaki voulut le premier grimper. Il était agile. Tawaki, la tête levée, le vit bientôt tout menu dans les nuées et furieusement malmené par les tourbillons tempétueux qui agitaient au-dessus du monde les lianes feuillues où il s'agrippait. Tawaki lui cria de descendre, le voyant presque emporté comme une paille dans la bourrasque. Le jeune fou se laissa glisser de feuille en branche et tomba près de lui, tout tremblant et essoufflé. « Retourne chez nous, lui dit Tawaki, et si je ne reviens pas, prends bien soin de notre héritage. » Et c'est ce qu'il fit. Dès qu'il fut seul, Tawaki chercha longuement le plus solide parmi les rameaux qui pendaient devant lui. Il en trouva un, tendu comme une corde d'arc. Il était doublement enraciné dans le ciel et dans la terre. Tawaki l'empoigna et patiemment s'éleva. Il grimpa tout le jour sans un instant faire halte ni regarder derrière lui. Le soir venu, il parvint au bord du royaume d'en haut. Il s'y coucha et dormit toute une nuit céleste. Au matin, il se vit dans une vaste plaine. À l'horizon de cette plaine était une ville, aux murailles éblouissantes, et il décida de s'y rendre. Dans la première ruelle du faubourg, il ramassa des haillons de vieux mendiants et s'en vêtit. Ainsi déguisé, il se mit en chemin vers le palais de Tango, Tango son épouse, qui se trouvait au cœur de la cité. Le palais était aussi blanc que le soleil et entouré de jardins foisonnants d'oiseaux. À la porte de ce palais, il cogna du poing. Les serviteurs qui lui ouvrirent s'effrayèrent d'abord de son allure grotesque et de ses vêtements puants, mais acceptèrent par pitié pour sa misère de lui confier leurs tâches les plus rudes. C'est ainsi qu'il devint l'esclave des esclaves. Il n'en fut pas abattu, car il n'était pas homme à se laisser submerger par l'adversité. Les travaux qu'on lui confia furent accomplis avec une perfection si visible qu'un jour, Tango Tango, soupçonnant quelques mystères, le fit appeler dans le jardin où elle jouait avec sa fille. Alors Tawaki abandonna son déguisement. Dès que l'enfant vit Tawaki s'avancer parmi les arbres, elle courut à lui les bras grands ouverts. Il la prit alors contre sa poitrine et vint vers son épouse. Un long moment, ils se regardèrent sans rien dire. Puis ils se sourirent et s'étreignirent enfin, comme deux amants éperdus de tendresse longtemps inassouvie. « Tu as gagné le ciel !» lui dit Tango Tango. « Ne le perds plus ! Reste avec nous !» Et Tawaki de lui répondre « Je veux être où sont mon épouse et ma fille. » Et c'est ainsi qu'il demeura au ciel, où il devint l'esprit du tonnerre et de la foudre. Et c'est ainsi, bonnes gens, quand désormais vous entendrez gronder l'orage et remuer les nuées. Réjouissez-vous et dites aux peureux, ne craignez rien, c'est Tawaki là-haut qui joue avec sa famille. Ce qui est, depuis le temps de ses retrouvailles avec Tango Tango, son épouse céleste, la pure et simple vérité. morceau écrit par Brian Eno et interprété par Vanessa Wagner dans son dernier album, que je vous conseille d'ailleurs vivement. Tout compte fait, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes sur le site internet de Radio G à la rubrique de l'émission. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec J'entends des voix. Quant à nous, on se retrouve le jeudi 16 juin à 9h10 pour